Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Pour ce temps de carême, Radio Présence vous propose de mieux comprendre ce qu'est le sacrement du pardon. Dans cette première émission, nous nous arrêtons sur ce qui fait le cœur de ce sacrement, la pénitence. Revenez à moi de tout votre cœur, implore le Seigneur par la voix du prophète Joël. Ce retour à Dieu, c'est la conversion du cœur, appelée aussi la pénitence. Pour bien comprendre cette attitude intérieure, nous sommes avec le frère Benoît Dominique de la Soujol. Dominique, hein. Bonjour frère Benoît Dominique.
Bonjour.
Vous êtes notamment l'auteur du livre « Introduction au mystère de l'Église », une nouvelle édition parue en juin 2025 aux éditions Parole et Silence. Alors, ce sacrement de pénitence, il fait partie, dans le catéchisme de l'Église catholique, des sacrements de guérison. Qu'est-ce qu'il vient précisément guérir ?
Il vient guérir les deux choses qui, en nous, sont la présence du mal. D'abord, l'acte précis que j'ai commis. Par exemple, j'ai manqué la messe du dimanche par paresse. Dieu, ici, efface l'ardoise par pure miséricorde, et ainsi nous ne traînons pas des casseroles toute notre vie. Ensuite, la grâce du pardon agit sur la tendance qui, en moi, a été la source de ce péché. Je suis paresseux. Ici, la régularité du sacrement est importante parce que la grâce de la réconciliation agit différemment que sur l'acte précis et ponctuel. J'ai manqué dimanche dernier la messe. Il est clair que si j'entre au confessionnal paresseux, j'en ressors paresseux.
Eh oui.
Bien. La grâce de la miséricorde de Dieu agit sur la tendance au mal, un peu comme l'eau agit au bas de la falaise. Un travail de sape. Il n'y a aucune dureté de pierre qui peut résister à ce travail de sape de l'eau. Il prend certes du temps, mais il est sûr qu'après 1 an, 2 ans, 10 ans, la falaise s'écroulera.
Oui.
Et c'est une image suggestive du travail de la grâce sur nos tendances, d'où procèdent nos actes ponctuels mauvais. La grâce ici sape cette tendance, et c'est pourquoi la régularité du sacrement est importante pour entretenir, voire ranimer en nous ce travail de sape.
Et donc, d'où le fait que ce soit un sacrement de guérison.
Voilà.
Il y a beaucoup de noms pour désigner le sacrement de la confession. On parle parfois de sacrement du pardon, de la réconciliation, de la pénitence. Pourquoi y a-t-il autant de noms pour désigner finalement le même sacrement ?
Oui, d'autant plus que d'autres sacrements n'ont qu'un seul mot, le baptême, ça suffit. Parce qu'il s'agit ici d'une démarche complexe, c'est-à-dire composée de plusieurs éléments, et chaque mot désigne un élément, si je puis dire. Donc chaque mot est à la fois juste et incomplet. L'objet fondamental de ce sacrement, c'est le retour à Dieu de celui qui s'en est éloigné par le péché. Ce retour est appelé dans l'Écriture « métanoïa », c'est-à-dire « retournement ». Conversion. On quitte le chemin du mal. Ce retournement est effectué par le sujet par une vertu, c'est-à-dire une capacité d'abord d'être et donc d'agir, qu'on appelle la pénitence. C'est d'elle que nous allons principalement parler. La confession, elle, désigne le fait de reconnaître lucidement et loyalement les péchés que nous avons commis et qui nous ont détournés de Dieu. Cette prise de conscience est à la racine de toute la démarche, car sans elle, il ne se passe rien.
Oui. Et quand on parle de sacrement du pardon ?
Alors le pardon est cela même que le pécheur vient mendier auprès du Seigneur, qu'il ne peut pas avoir par lui-même. Il ne peut que le recevoir, c'est-à-dire l'effacement de ses fautes et aussi la force de ne pas y retomber.
Ah oui, bien sûr.
Enfin, la réconciliation, c'est la finalité de tout. C'est la réunion du sujet avec Dieu.
Oui. Pourquoi y a-t-il besoin d'un sacrement de réconciliation puisque le baptême nous a délivré de la faute originale, frère Benoît Dominique ?
Oui, nous pourrions parler des heures sur ces questions. Je vais essayer d'être le plus bref, mais aussi précis possible. Le baptême, c'est même la signification du rite qui est un rite d'ablution d'eau, donc de lavage. Le baptême a bel et bien effacé la tache originelle qui n'est pas un péché personnel. J'évite de parler de péché originel, ce qu'il est pour Adam et Ève. Et la tradition parle de macula, hein, de la tache originelle, oui. Pour bien montrer que moi, j'y étais pas hein, ce jour-là. Hein, je n'ai rien fait ce jour-là. Cependant, l'expérience de chacun le montre bien. Nous conservons et nous avons en nous cette mystérieuse complicité pour le mal, c'est-à-dire cette capacité de pécher comme Adam et Ève l'avaient avant de commettre la faute. Hein. Bien. Ainsi, si donc nous ne portons pas la blessure originelle, nous avons cette mystérieuse et bien réelle capacité de pécher. Oui. C'est clair. L'expérience de chacun suffit à s'en convaincre.
Ah ben complètement, oui.
C'est la dignité aussi de l'homme. Nous ne sommes pas des mécaniques, nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des plantes.
C'est la liberté de l'homme.
Mais c'est le risque de la liberté
de
l'homme.
Le risque de la liberté. Et est-ce que donc ce baptême nous délivre de cette faute, mais il y a quand même besoin de revenir par le sacrement de réconciliation au pardon régulier.
Oui, le baptême en ce sens nous donne d'abord plus aucun lien hein, avec la faute originelle et la force de mener la logique de la vie divine et de la grâce de Dieu jusqu'à son terme.
Vous avez parlé, frère Benoît-Dominique de la Soujolle, de la pénitence. Qu'est-ce que c'est exactement ?
Le sens latin du mot penitentia est triple. C'est d'abord le repentir intérieur du pécheur. Il regrette sincèrement. C'est ensuite le nom du sacrement où ce repentir aboutit au pardon de Dieu. Et c'est enfin la pénitence, c'est-à-dire l'œuvre demandée, telle prière à dire, tel service à rendre, tel pardon à donner ou à demander.
Un peu comme la réparation alors.
Oui, l'œuvre demandée. Et nous allons, si vous voulez bien, voir surtout le premier sens qui donne toute sa valeur aux deux autres, c'est-à-dire cette démarche de repentir.
Le repentir intérieur.
Qui met sur ce chemin.
D'accord. Donc ce repentir intérieur, cette pénitence intérieure, qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors on dit techniquement que c'est une vertu, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, une capacité d'être, une capacité que j'ai par le fait même que je suis un être humain, et donc par conséquent une capacité d'agir, de poser de certains actes. Par exemple, la justice est une vertu. C'est une vertu par laquelle je rends à autrui ce qui lui revient. La force est une vertu par laquelle je fais face à l'adversité. La tempérance est une vertu par laquelle je mesure bien ma consommation, par exemple d'alcool, etc. Donc, une capacité d'être qui est au principe d'une capacité d'agir. Alors, la pénitence est une vertu en ce sens que nous nous repentons du mal que nous avons commis et par conséquent, par cette vertu, nous voulons réparer ce mal commis. Par exemple, j'ai volé un objet dans un grand magasin, je vois que c'est mal, je m'en repens et je répare en restituant l'objet volé.
Oui. Donc il est quand même nécessaire de prendre conscience du mal qu'on a commis. De quelle prise de conscience parle-t-on ?
Alors voilà, il ne s'agit pas seulement, ni même essentiellement, du sens psychologique, cette prise de conscience psychologique par laquelle on prend conscience, comme on dit, c'est-à-dire qu'on réalise ce qu'on a fait.
Oui, c'est ça, oui.
C'est la conscience ici au sens moral, c'est-à-dire cette voix intérieure par laquelle Dieu parle et qui fait comme voir ce que l'on a fait et qui dit surtout que c'est mal. Si on ne fait que voir, c'est la conscience au sens psychologique, mais si on juge, on apprécie en bien ou en mal ce qu'on a fait, ça, c'est la conscience au sens moral.
Et cette conscience, cette conscience au sens moral, c'est cette petite voix qui nous dit c'est bien, c'est mal, et c'est une petite voix qu'il faut avoir l'habitude d'écouter.
Oui, c'est, lié à cette capacité que nous avons et qu'il ne faut pas négliger de faire retour sur nous-mêmes. Et retour sur nous-mêmes, non pas uniquement d'une façon psychologisante, ce qui est tout à fait légitime et peut être très bon, il y a des psychologues pour ça, mais aussi pour voir le bien comme le mal hein, qui est en moi, et m'appuyer sur le bien pour diminuer et vaincre le mal, bien sûr.
Alors, justement, comme vous parlez, frère Benoît-Dominique, de se repentir, on a un très bel exemple dans la Bible, c'est l'exemple de David.
Oui, le repentir, si vous voulez, c'est l'acte majeur de la vertu de pénitence qui donne toute son impulsion au processus par lequel on va sortir du mal que l'on a commis. Hein. Et le repentir, c'est un regret, j'ajoute, sincère. Parce qu'on peut regretter un acte commis parce que quand on crache en l'air, ben ça vous retombe dessus. Hein. Et par conséquent, si j'ai conduit en état d'ivresse et que j'ai eu un accident, ben je regrette d'avoir conduit en état d'ivresse parce que j'en suis la première victime.
Oui.
Bon. Mais ici, il faut aller évidemment plus loin. Le regret sincère, c'est dans l'offre de réparer tout ce qui est réparable. Hein, il n'y a pas de regret véritable si ça ne va pas jusqu'au désir de réparer tout ce qui est réparable. Et on le voit dans la fameuse scène donc, du deuxième livre de Samuel, quand Nathan vient dire à David, « Cet homme, c'est toi. »
Mmh. Oui, mais en fait, il a pris la femme de Urias le Hittite, mais en fait, il a pas vraiment réparé, puisqu'il a fait tuer justement ce soldat, et il a beau se repentir, il a pas pu réparer et ressusciter ce mari trompé.
C'est exact. On peut bien dire que regretter le passé ne supprime pas le fait accompli. Hein, un mort, on le ressuscite pas. Mais le repentir du pénitent consiste à réprouver l'action passée et d'en réparer tout ce qui est réparable, c'est-à-dire d'en réparer tout ce que l'action passée a encore d'actuel. Hein, j'ai volé, eh bien, je conserve l'objet volé chez moi, ben, c'est actuel pour la personne qui a été volée, elle est privée de son bien.
Mmh.
Hein, et donc restituer, c'est vraiment répondre à une situation actuelle. Mmh. C'est pour ça que j'ai dit réparer tout ce qui est réparable.
Oui, c'est ça. Mmh. Et dans le cas d'un meurtre, par exemple, là, ça n'est pas réparable.
Non. Mmh. Non, ce n'est pas intégralement réparable, puisque je ne ressusciterai pas la personne que j'ai tuée, ne serait-ce que par imprudence. Hein. Mais je vais voir tout ce que je peux faire, d'abord devant Dieu, bien sûr, mais aussi vis-à-vis de tous ceux qui ont été touchés par cette mort, par exemple.
Oui.
Hein. Avoir une démarche de regret, de demande de pardon, de réparation.
D'assistance peut-être aussi.
D'assistance, etc. Là on a quand même, c'est les effets actuels de ce qui a été commis, sur lesquels j'ai un véritable pouvoir.
Mmh. Alors, il y a ces fautes graves qu'on commet et dont il est facile de prendre conscience. Il y a quand même aussi tous ces petits actes. Par action et par omission, hein, comme on dit dans le Confiteor, les petits actes commis qui paraissent anodins, comment on peut prendre conscience, puisqu'on parlait tout à l'heure de la prise de conscience, de ces actes?
Oui, il faut éviter de penser que l'acte anodin serait un acte ni bon ni mauvais. Bon, un acte insignifiant, comme on dit maintenant. Non, tout acte posé par une personne humaine, c'est-à-dire volontairement, et soit bon, soit mauvais. Il n'y a pas d'acte indifférent. Alors bien sûr, il y a en moi tous les actes organiques, je digère le repas de midi, bon, ça c'est un acte qui n'est pas volontaire, c'est un acte organique, mécanique, si je puis dire. Ça, ce n'est pas un acte humain, on appelle ça un acte de l'homme, hein, mais pas un acte humain. Mais tout acte humain, c'est-à-dire tout acte qui procède de ce qui me fait véritablement un être humain intelligent et volontaire, et soit bon, soit mauvais. Alors bien sûr, il y a des degrés d'importance. Ce qu'on appelle les fautes légères, voire très légères, sont des fautes réelles, des manques de bien. Dans des matières sans gravité, avec peu de volontaires engagés. Je prends un exemple. Je me suis mis en retard. J'en suis responsable. Et faisant la vaisselle, j'ai cassé un verre. J'ai diminué le bien de la famille.
Ah oui.
Bien. Objectivement. Bien. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat, comme on dit. Mais en tout cas, c'est un acte qui s'origine dans une faute, certes légère, mais réelle. Alors, pour regretter ces fautes légères, il faut que notre conscience morale ait acquis une certaine finesse. Parce qu'il faut éviter deux excès opposés. L'indifférence ou l'inconscience, en disant « bon, c'est anodin, c'est rien, c'est insignifiant, bref ». Ça, c'est l'excès en moins. Puis il faut aussi éviter l'excès en plus, c'est-à-dire le scrupule.
Ah oui.
C'est-à-dire de considérer un acte anodin, au sens mineur, comme grave. Mm. Alors, le scrupule n'est pas une vertu, hein, c'est une défaillance psychologique. Il faut le savoir.
D'accord. Mais pourtant, le scrupule, ça peut aider aussi à prendre conscience d'actes nocifs.
Peut-être au départ, ça peut éveiller une conscience, mais le jugement de conscience est faussé parce que la gravité n'est pas appréciée à sa juste valeur. Mmh. Et donc, ça peut être finalement très paralysant. Vous avez des personnes qui, par scrupule, n'osent jamais aller communier à la messe. C'est quand même embêtant.
Oui.
Parce que la messe n'est pas faite pour les saints canonisés. Là où ils sont au ciel, ils ont la réalité de la messe et pas le sacrement. Bon. Tandis que, vous voyez, il y a un côté auto-paralysant du scrupule qui est à éviter absolument.
Mmh, d'accord. Est-ce que on ne parle de vertu de pénitence que dans le domaine religieux ?
Alors, oui, en un sens. Ouais. Parce que il y a le fait que pour que la vertu de pénitence s'accomplisse, il faut qu'elle soit dans ce climat religieux, c'est-à-dire qu'on voit en quoi le péché, l'acte mauvais, a affecté la relation avec Dieu. C'est ça le fond du problème. Mmh. Le mal commis nous éloigne de Dieu et est une offense à Dieu. C'est pourquoi la démarche pénitente n'atteint sa perfection que par ce qui ne peut venir que de Dieu et qui est son pardon. Mais c'est vrai que dans les civilisations qui ont été façonnées par le christianisme, c'est le cas de la nôtre, le service public de la justice a reçu beaucoup de règles venant de l'héritage chrétien et qui durent encore, ces règles. Par exemple, devant un voleur qui avoue son geste, le regrette, par conséquent, il le répare en restituant l'objet volé, et il demande pardon à la victime. Si le cas est réalisé, le juge appliquera une peine mineure, par exemple avec sursis. Ce n'est pas un hasard si chez nous, beaucoup de mots du langage juridique pénal viennent du langage chrétien. Mmh. Voyez l'expression « l'administration pénitentiaire ».
Ah oui. Oui, c'est vrai, ça vient de ce mot pénitence.
C'est la pénitence qui est derrière.
Ouais, oui, oui. Alors, je comprends que la démarche du pénitent n'atteint sa perfection que parce qu'elle vient de Dieu. Est-ce à dire que la conversion, c'est d'abord l'œuvre de la grâce de Dieu ?
Oui. Ici, il faut bien voir que Dieu est au début, au milieu et à la fin de la démarche du pénitent. Il y a ici trois grâces qui se succèdent, si je puis dire. Enfin, c'est un unique processus. Mais c'est la manière de Dieu d'être présent aux pécheurs. Au début, on parle techniquement de la grâce prévenante, c'est-à-dire littéralement la grâce qui vient avant. C'est la grâce de lucidité et de loyauté qui nous montre nos péchés et nous aide à les reconnaître en vérité. Lucidité, loyauté. C'est cette grâce que nous captons dans ce qu'on appelle classiquement l'examen de conscience morale. Mm-hmm. Puis la grâce se fait, dit-on, coopérante, c'est-à-dire qu'elle nous soutient pour aller mendier le sacrement de la réconciliation. Cette grâce nourrit en nous l'humilité, car il en faut pour entrer au confessionnal. Enfin, la grâce se fait sanctifiante, c'est le parfait accomplissement de la grâce dans et par le sacrement en pardonnant les péchés.
Mmh. Est-ce que ça veut dire, frère Benoît Dominique, que ces trois grâces, avant, pendant et après, si on peut dire,
exactement,
sont automatiquement données par Dieu ou est-ce qu'il faut les demander ?
Alors la première, la grâce prévenante, précède absolument toute disposition du sujet. Elle est la condition de base pour que le sujet s'éveille. Ça, c'est important, c'est l'antériorité de Dieu. Et c'est l'expression la plus poignante, si je peux dire, de sa fidélité.
D'accord.
Et ça, il est toujours premier. Il fait toujours le premier pas, il précède toujours. Souvent, il frappe à une porte qui ne s'ouvre pas, mais il ne se décourage pas. C'est un témoignage considérable de la fidélité de Dieu, oui, qui est la condition de la nôtre.
Oui, oui, c'est ça. Et pour les deux autres, la grâce de l'humidité et de l'humilité, pardon, et la grâce sanctifiante, là aussi, c'est une grâce qui arrive en amont, ou est-ce qu'il faut spécifiquement la demander ?
Alors, c'est une question très redoutable de la relation entre la grâce et la liberté. Hein. La grâce est toujours première, ça ne veut pas dire que je ne suis pas libre. Hein, et je peux très bien, à celui qui frappe à la porte, ne pas ouvrir. Oui. Alors, pour la grâce qui est coopérante et qui éveille en moi ce sentiment et cette vertu d'humilité qui va me conduire au confessionnal, on voit très bien que Dieu tient, soutient, maintient, porte la personne, mais que par ailleurs, il faut aussi que la personne accepte de se laisser soutenir.
Et oui, c'est ça, parce qu'il y a quand même un sacré combat hein, quand on va se confesser.
Oui, oui, oui. Avouons-le. C'est tout à fait, mais l'intime de ce combat est extrêmement mystérieux, parce que Dieu ne nous téléguide pas au point qu'on serait privé de toute maîtrise de nous-mêmes. Et néanmoins, pour être vraiment nous-mêmes, il faut que Dieu soit présent.
Eh oui, il faut que Dieu soit présent. Je vous propose, frère Benoît-Dominique de la Soujolle, de nous arrêter quelques instants. Nous écoutons « Je n'ai pas mérité », interprété par Holy Cœur.
Mon esprit, mon
présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Nous sommes avec le frère dominicain Benoît Dominique de la Soujolle pour nous parler de l'aspect moral de la confession. C'est la première émission d'une série de carême sur la confession. Frère Benoît Dominique, vous avez défini juste avant cette pause musicale ce qu'est la pénitence et ce qu'est la vertu de pénitence. Comment on peut distinguer la pénitence de la culpabilité?
Le mot culpabilité vient du latin culpa, qui signifie la faute. Cela a donné en français culpabilité, coupable aussi. Et la culpabilité, c'est l'état de coupable, c'est-à-dire l'état de responsable d'une faute. Dans les procédures pénales anglo-saxonnes, vous le savez, le procès commence toujours par la déclaration de la personne poursuivie. Plaidez-vous coupable ou non coupable? La culpabilité est donc un jugement de responsabilité. La pénitence est ce qui suit le jugement de culpabilité. On est ici, si vous voulez, dans le troisième sens du mot pénitence, comme je disais au début, c'est-à-dire la peine qui est donnée. La pénitence, compte tenu de la responsabilité établie, la personne coupable va donc se voir infliger une peine ou pénitence. La raison d'être d'une peine, en général, dans notre vie sociale, est triple. Elle répare la paix troublée par le péché en rétablissant la justice. Elle est aussi médicinale parce qu'elle doit aider le coupable à redevenir bon. Et elle est aussi éducatrice et dissuasive pour les autres. Dans le sacrement de pénitence, une peine est bien donnée à celui qui confesse ses péchés, mais ça va être quand même d'une autre nature que les peines données par le tribunal correctionnel. C'est une peine dite spirituelle. Il ne s'agit donc pas d'amende ou de prison comme dans la société. Peine spirituelle parce qu'elle veut réparer la relation avec Dieu. D'où souvent la peine consiste en des prières, notamment d'actions de grâce, dans un acte de piété, etc. Elle est médicinale aussi dans la mesure où elle est un acte foncièrement bon qui, comme tel, comme tous les actes bons que nous commettons, bonifie le sujet qui le pose. Le côté éducateur et dissuasif pour les autres n'est pas de soi présent dans le sacrement parce qu'il est célébré dans une très grande discrétion, protégé par un secret inviolable. Mais le fait que la communauté chrétienne se mette en état de pénitence et communautairement, comme le mercredi des cendres, il y a quelques jours, comme au début de chaque messe où nous récitons ensemble le « Je confesse à Dieu », ceci est un témoignage puissant d'éducation morale pour chaque membre de la communauté, mais également donné aussi à ceux de l'extérieur.
Oui. Alors, on comprend bien que chacun est responsable de ses fautes et de plus, tout chrétien devrait en demander pardon dans le sacrement de pénitence dont nous parlons aujourd'hui. Néanmoins, est-ce qu'on peut considérer que les chrétiens ont un rôle à jouer face au mal qui est commis tous les jours dans notre monde?
Oui, bien sûr. La responsabilité des chrétiens devant le mal qui est commis tous les jours dans notre monde est double. Elle est d'abord une responsabilité personnelle. Il y a en moi une mystérieuse mais bien réelle complicité pour le mal à des degrés divers, bien sûr. De sorte que le chrétien cultive en lui, si l'on peut dire, non pas un morbide sentiment de culpabilité, mais une lucidité et une loyauté sur lui-même. Je suis un pécheur. Mais en christianisme, cette vérité n'est pas négative. Elle est la porte d'entrée dans le mystère du salut. Le Seigneur n'est pas venu condamner, mais sauver. Or, le point commun entre condamné et sauvé, c'est bien la présence du mal, du péché. Mais la condamnation enferme dans le péché, alors que le salut en libère.
Oui. Et le Seigneur n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les pécheurs.
Exact. Et s'il y a des bien portants, j'en doute. La responsabilité donc personnelle, voyez-vous, passe par le fait que je ne suis pas étanche, hein, je ne suis pas sans influence sur ce mystère du mal qui rôde dans le monde. Et puis ensuite, la responsabilité des chrétiens est communautaire. Parce que la communauté chrétienne, par sa prédication, son témoignage, ses œuvres et le sacrement qu'elle a reçu du Christ, propose la seule voie totale de libération du mal, pour le monde entier. C'est la dernière demande de la prière du Seigneur, le Notre Père. La communauté donc soutient la lucidité, la loyauté collective devant le mal, afin d'orienter les mauvais, qui sont aussi des malheureux, vers le salut offert par le Christ.
Donc on comprend bien qu'il y a une responsabilité communautaire par l'exemple que donnent les chrétiens et aussi par leur prière.
Oui.
Alors c'est toujours difficile de reprendre quelqu'un, on le voit par exemple dans la vie conjugale ou j'imagine vous aussi dans la vie communautaire, la frontière est mince entre la correction fraternelle et le reproche. Donc dénoncer le mal, très bien, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de passer pour un donneur de leçons, d'être moralisateur ?
Oui, c'est un risque assez souvent réalisé, donc il demande à ce qu'on réfléchisse. Dans le témoignage que la communauté chrétienne et chaque chrétien dans son sein doit rendre, il n'y a pas que la dénonciation du mal. Il y a le témoignage des saints, voyez Mère Teresa de Calcutta par exemple, qui oriente notre regard vers la joie de la charité, de l'amour. Car l'amour est la vraie et radicale réponse au mystère du mal. Plus l'amour augmente dans le cœur d'une personne, plus sa capacité de mal faire diminue. Ce sont des vases communicants, si j'ose une expression, une comparaison. C'est pourquoi la prédication, comme le témoignage chrétien vécu, doit mettre l'accent sur l'amour, car Dieu est amour. Mais dénoncer le mal, montrer à quelqu'un qu'il a mal fait, c'est quand même la condition première pour pouvoir échapper à l'emprise du mal, à s'en éloigner par la pénitence, de cesser d'en être l'otage et de redevenir ainsi capable d'aimer et d'être aimé. C'est ça la finalité, c'est l'amour. Dénoncer le mal est la condition première pour lutter efficacement contre lui, car si je ne dis rien, je laisse les ignorants ou ceux qui se trompent comme les otages du mal qu'ils commettent. Et je ne peux pas dire par conséquent que je les aime.
Et si je ne dis rien, je peux être complice.
Et ça peut se finir en complicité, la complicité par abstention.
Oui, c'est ça. Oui. La difficulté, c'est de bien le dire.
Il faut une qualité de cœur.
Il faut une qualité de cœur.
Qui permet de toucher le cœur de l'autre. Et si on est vraiment un authentique pénitent soi-même, cette qualité de cœur, elle s'éveille et elle se construit en nous.
Oui, et certainement une grâce à demander de cette vertu du cœur pour pouvoir après ne pas être un donneur de leçons, mais dénoncer le mal.
Et le guérir.
Alors finalement, on comprend que cette vertu de pénitence, elle est positive.
Oui. Le mot peut faire reculer, les images plus ou moins précises qu'on peut avoir peuvent faire reculer aussi, mais c'est une vertu, et la vertu est par définition quelque chose de positif. Le contraire de la vertu, ce qui est vraiment négatif, s'appelle le vice.
Et, oui.
Et le vice est une sorte de cancer moral, c'est-à-dire indolore au début, douloureux ensuite, et mortel enfin. La pénitence, de ce point de vue-là, c'est la médecine efficace contre ce cancer du mal. La potion, certes, peut être parfois amère, mais c'est un remède. Ce n'est pas une peine afflictive et infamante, comme on dit dans l'administration judiciaire française. C'est un remède.
Ce n'est pas une punition.
Non, ce n'est pas, comment dire, c'est pas un châtiment au sens étroit du terme, où certains vont jusqu'à dire c'est l'exercice du pouvoir de vengeance de la société. Non, ça c'est tout à fait étranger à la perception de la vertu de pénitence.
Pour conclure, quel texte biblique nous recommanderiez-vous pour approfondir cette vertu de pénitence, frère Benoît Dominique ?
Alors, pendant ce temps de carême, nous pouvons prendre un temps nécessaire pour aller dans des lieux majeurs de la Première Alliance, de l'Ancien Testament, et bien sûr majeurs du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le lieu majeur, c'est le crime de David, dénoncé par le prophète Nathan de Samuel chapitre 11. Et c'est cela qui est à la racine du psaume 50, hein, le fameux psaume Miserere,
pitié de moi, Seigneur.
Et alors, le lieu majeur du Nouveau Testament, et ça nous, ça introduira l'émission suivante, c'est très précisément la parabole du fils prodigue, donc dans l'évangile de Luc au chapitre 15, où on a non seulement tout le schéma qui conduit au péché, on a le retournement et toute la dynamique qui conduit au retour en grâce. Donc c'est un lieu véritablement parfaitement complet. Mais pour bien le comprendre, il faut partir du lieu de l'Ancien Testament, du deuxième livre. Alors, ces lieux-là nous permettent de voir se dévoiler en profondeur le vrai visage de Dieu que le Christ, en son mystère pascal, a pleinement révélé. Il y a une chose qui m'a toujours frappé depuis très longtemps. Quelle est la personne qui est rentrée la première au paradis une fois que le Christ, dans son mystère pascal, l'a réouvert? Ben, ce n'est pas la Vierge Marie, pourtant elle est sans péché. Oui. Et puis alors, c'est une sainteté inégalable. Ben, c'est un criminel en train de subir la terrible justice des hommes, c'est le bon larron.
Ah oui.
Ça montre l'ampleur, si vous voulez, de la pénitence, parce que le bon larron reconnaît qu'il subit une peine. Et c'est juste pour nous, dit-il, voyez, dans les critères terribles de la justice des hommes. Mais c'est le premier à rentrer au paradis. Et c'est ça, si vous voulez, les lieux bibliques nous révèlent le vrai visage de Dieu. Il ne sait qu'aimer, il ne veut que pardonner.
Et c'est ce que vous disiez au début de cette émission, la patience de Dieu, sa fidélité et effectivement sa miséricorde. Ouais. Donc deux textes à lire et à méditer pendant ce temps de carême, le psaume 50, donc ce psaume écrit par David, et puis ce passage, cette parabole du fils prodigue dans l'évangile de Saint-Luc, chapitre 15, versets 11 à 24, où on découvre tout le cheminement du pénitent, justement, qui revient vers son père et qui est accueilli à bras ouverts par son père.
Et du péché et de la pénitence.
Ah voilà.
Parce qu'il s'éloigne d'abord. Et on voit très bien qu'il s'éloigne.
Exactement.
Ouais. Oui, il y a toute une logique.
Oui. Voilà, donc deux beaux textes à méditer et à lire pendant ce temps de carême. Merci beaucoup, frère Benoît-Dominique de la Sojeune.
Avec grand plaisir. Merci à vous.
Nous avez éclairé aujourd'hui sur la vertu de pénitence, l'aspect moral de la confession. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.